France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Raconter le Big Bang et un voyage interstellaire sur scène avec des bouts de ficelle, c'est toute la beauté et la poésie du spectacle Fusée. La metteuse en scène Jeanne Candel sera mon invitée à partir de 13h. Et on commence cette émission par l'exercice quotidien de la critique, aujourd'hui au menu littérature, avec deux livres de journalistes, Bartleby et moi, du grand reporter américain Guétalis, paru aux éditions du Sous-Sol. Et puis L'Appel, histoire d'une femme argentine, de Leila Guerriero, qui fait le portrait d'une victime de la junte, paru chez Rivage. Vous écoutez les Midis de Culture et ça ne fait que commencer. Et je vous présente les critiques du jour. Marie Sorbier, productrice du Point Culture, ici même, et rédactrice en chef de IO.
Bonjour Marie.
Bonjour, Thomas Célandre, journaliste à Libération.
Bonjour Marie.
Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Jour après jour, l'actualité est alimentée par les déclarations ou les faits et gestes de ceux qui sont jugés dignes d'en faire les titres. Qu'il s'agisse d'hommes politiques, de banquiers, d'éminents hommes d'affaires, d'artistes, d'animateurs ou de sportifs. Et à moins d'avoir été impliqué dans un crime ou un scandale, d'avoir été victime d'un accident ou d'une mort violente, tous les autres sont condamnés à l'anonymat. S'ils avaient vécu tranquillement, en respectant la loi, s'ils étaient décédés de mort naturelle, nul responsable de rubrique nécrologique n'aurait songé à demander à un reporter de leur consacrer un article. Ils ne sont pas jugés dignes de faire l'actualité et sont tout bonnement du menu fretin. J'ambitionnais, quant à moi, de devenir le spécialiste de ces anonymes lorsque je suis entré au New York Times au milieu des années 50. Pour ce qui est de mes lectures, j'ai toujours eu une préférence marquée pour les auteurs de fiction capables de rendre l'ordinaire extraordinaire. Ils possèdent ce don de rendre inoubliable un personnage de l'ombre. Auteur d'une formidable nouvelle intitulée « Bartleby le scribe », Herman Melville appartient à cette catégorie d'écrivains.
Et c'est donc à tous les Bartleby qu'il a croisés dans sa vie de journaliste que Guétalis rend hommage dans ce livre dont vous venez d'entendre un extrait, « Bartleby et moi ». À 93 ans, le dernier Mohican du nouveau journalisme a de quoi raconter comment, en échouant à rencontrer Frank Sinatra en 1965, il fera un article mémorable, un classique du journalisme littéraire, comment la presse était le cœur battant de New York, qui étaient ses petites mains, comment et pourquoi un inconnu a fait sauter son immeuble à Manhattan. Tous tes sujets. On commence par un avis rapide, Marie Sorbier.
Alors moi, Guétalis, c'est un journaliste que j'aime beaucoup. Je le mets au même endroit que John Didion, dont nous parlions la dernière fois quand nous avons fait cette critique de non-fiction. Donc j'attendais ce dernier opus avec beaucoup d'impatience. Et j'ai pas été déçue. Il m'a intéressée sur plusieurs points qu'on développera après. Mais dans un avis rapide, je voulais dire que ce qui me plaît le plus, c'est que Guétalis arrive à allier, je trouve, avec panache, le journalisme et la littérature. En fait, je suis assez admirative de sa phrase que je trouve limpide et truculente à la fois. Et c'est un plaisir de lecture avant tout.
Thomas Stellandre.
Guétalis, on le disait, c'est quelqu'un qui a 93 ans, c'est un sacré personnage. Donc j'invite tout le monde d'ailleurs à faire Google Images pour voir quand même à quel point c'est un homme chic à 93 ans. Donc plume fameuse voilà, du New York Times, Esquire, New Yorker. À 93 ans, on pourrait se dire que Bartleby et moi, c'est un peu le livre testament, mais en fait pas du tout, le mot fonctionne pas du tout. Moi je pense plutôt, je parlerais plutôt de best-of en fait. C'est vraiment dans une première partie, il nous raconte ses débuts. Dans une deuxième partie, c'est vraiment un article qui a fait date, donc Sinatra a un rhume. Et puis, dans la troisième partie, on a un article un peu plus récent, voilà, oui, ce qui est aussi un hommage à New York. Et en fait, à travers ça, c'est un peu les trois âges de la vie. Et donc, on a voilà, une traversée totale de ce que peut être l'œuvre et le travail de Guétalis et le personnage truculent qu'il est.
Alors Marie Sorbier, la littérature au rendez-vous malgré tout, en tout cas.
Mais moi, j'aime beaucoup sa phrase, en fait. J'aime beaucoup le lire d'abord parce qu'il y a toujours... J'ai l'impression, je le vois toujours avec un sourire au coin des lèvres quand il écrit. Alors je sais pas, c'est peut-être l'image que je m'en fais, mais il y a quelque chose de léger, de joyeux, alors même qu'il traite de sujets qui le sont parfois pas du tout. Mais il a appris un journalisme qui, je crois, n'existe plus. Alors moi, c'est ce qui me plaît le plus. J'y trouve une immense nostalgie et peut-être ce qui manque aujourd'hui en France, c'est-à-dire un journalisme qui prend son temps, des reporters qui partaient des mois suivre une personnalité et qui restaient comme ça le temps d'avoir assez de matière pour écrire un papier et un papier qui était long et qui se permettait surtout d'appréhender le sujet par les détails. Et c'est ce que je trouve merveilleux chez Guetta Lise. Alors, on peut peut-être commencer par Sinatra, puisque c'est son, en effet, hein, c'est son grand œuvre. Enfin, c'est comme ça qu'il est le plus connu, Sinatra a un rhume, qui a été élu, je crois, l'article du siècle. Enfin, il a eu comme ça un prix, non ?
Ouais, par GQ.
Voilà. Ouais. Et en fait, c'est un peu un modèle quand tous les jeunes journalistes, je pense, le lisent pour voilà, voir ce qu'on faisait, parce que je crois que ce serait plus possible de faire ça. Mais l'idée, en fait, et qui va constituer tout son œuvre, et qui a constitué tout son œuvre, c'est-à-dire, c'est de prendre les portraits en creux. Ce n'est pas une interview de Frank Sinatra, bien que ce soit pour ça qu'on l'ait envoyé, son rédacteur en chef l'envoie faire un portrait de Sinatra. Il n'arrive jamais à lui parler, parce que Sinatra a autre chose à faire, parce que Sinatra a un rhume. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il se retrouve là-bas, il est bien obligé de rendre quelque chose. Il va interviewer tous les gens autour, tout ce qui est la constellation de Sinatra. Et en fait, ça tombe bien, parce que ce qu'on apprend dans la première partie de ce livre, et qui pour moi est la plus intéressante, c'est vraiment ce que j'ai préféré le début, c'est que ce qui l'intéresse, lui, en fait, en tant que jeune journaliste, c'est d'interviewer les gens de l'ombre, les gens qui font, en fait, les autres métiers, les gens qui sont pas, dont on ne connaît pas le nom, et qui pourtant font partie à part entière de la société de New York, et de ce qui fait que New York est une grande plateforme culturelle dans ces années-là. Et donc là, il va interviewer, je vous dis n'importe quoi, son tailleur, après il interviewe le boxeur avec qui il travaille, et en fait, ce sont toutes ces petites interviews qu'il arrive à glaner qui, finalement, font un portrait en creux de Sinatra. Ça, c'est un modèle du genre, et surtout, ça marche extrêmement bien, parce que dans ces pages-là se dessine un portrait qui me semble très réaliste, très juste et très documenté de ce qu'était Sinatra à cette époque-là. Donc il invente, j'ai l'impression, une forme de journalisme. Il se permet en fait un jeu, je crois qu'il n'était pas très courant à l'époque. Hein. On lui dit d'ailleurs quand il arrive au Times, un journaliste, ça n'a pas besoin d'avoir de personnalité. Vous êtes des scribes et vous rapportez des faits. Et en fait, lui se pose en compte tout le temps en disant « Mais non, mais moi j'ai envie de raconter des histoires. Je veux aller rencontrer cette personne pour savoir comment il taille les costumes de machin. » Et ça, ça reste sa marque de fabrique et je trouve ça en fait hyper émouvant à lire.
Et pour bien comprendre, cet article Sinatra a un rhume est reproduit dans le livre où il raconte le making of, j'ai envie de dire, de cet article.
Non, c'est vraiment le making of. D'accord. Et il y a une phrase comme ça que je relève, j'écoute ce que dit Marie, je suis tout à fait d'accord, et il y a une phrase, donc on est page 174, on est un peu au cœur du livre, et là, pour moi, il y a tout le paradoxe du portraitiste, donc je cite, « Si tu veux avoir accès à Sinatra de la manière dont tu le souhaites, il faut que tu devienne son ami. Et si tu deviens son ami, tu te rendras compte que tu ne peux rien écrire sur lui-même. » Donc voilà, c'est quand même, quand on est journaliste, quand on est portraitiste, et puis quand on s'intéresse au portrait en général, pour moi, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir se rapprocher de Sinatra au plus près, et en même temps, ne pas faire ami-ami avec Sinatra. Et donc, Marie le disait, on a tout l'entourage, y compris d'ailleurs la préposée au postiche qui le suit, et ça, c'est assez génial. Pour moi, la deuxième partie, on est vraiment, c'est vraiment dans du Scorsese. C'est-à-dire qu'on a tout, on a la mafia, on a les petits arrangements, on a les petites menaces, et cet échange permanent qui est vraiment savoureux avec le rédacteur en chef qui lui a commandé, donc, du coup, ce portrait, et qui lui dit, bah non, ça n'arrive pas tout de suite, peut-être que j'ai quelque chose, mais je l'ai toujours pas rencontré. Il a un rhume, donc effectivement, et c'est à travers finalement le prétexte, je veux dire le fait qu'on n'y arrive pas, l'empêchement que se dessine en fait en creux le portrait, et ça c'est savouré, vraiment délicieux à lire. L'autre aspect, là je repars effectivement dans la première partie, il le dit dans l'extrait qu'on a entendu. C'est vraiment ce qui l'intéresse, c'est les moins que rien. Et donc, à ses débuts, comment Guetta Lise est devenu ce grand journaliste, c'est parce que il a toujours été cherché, finalement, là où on ne l'attendait pas. Il a été creusé là où on ne l'attendait pas. Donc, en tant que jeune journaliste, ça veut dire, par exemple, quand on l'envoie couvrir un cortège, plutôt que d'aller s'intéresser au début du cortège, il va aller s'intéresser à la dernière personne, celle qui ferme le cortège. Et d'un coup, s'intéresser à qui est-elle, d'où vient-elle, pourquoi est-ce qu'elle est là. Quand il fait un portrait, il va s'intéresser à l'électricien qui, par exemple, met les lettres sur le bandeau défilant du New York Times. Et donc, qui est cette personne? D'où vient-elle? Comment est-ce qu'elle est habillée? Et c'est ce souci du détail comme ça qu'on a du début à la fin dans les trois parties de ce livre.
Marie, pardon.
Non, je rebondis sur ce que dit Thomas. Il y a un portrait, moi, dans ce début aussi, qui m'a beaucoup plu. On lui commande, enfin, il veut absolument faire des portraits de journalistes ou des portraits de gens qui travaillent au Times. Et en fait, il demande à faire le portrait de la personne qui s'occupe des nécros. Donc, évidemment, son rédac-chef le regarde en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Et en fait, il deal, hein. C'est tu fais le portrait de Sinatra et après, tu pourras aller faire ton truc si tu veux. Bon. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il veut finir ce portrait de Sinatra, c'est pour pouvoir faire le reste. Et on lui accorde finalement d'aller faire le portrait de ce monsieur qui s'appelle Alden Whitman et qui est le gars qui a écrit les nécros pendant, je sais pas, des décennies au Times. Alors ça, c'est, je trouve ça passionnant parce que là, on rentre dans les coulisses. Alors, non seulement du journalisme des années, on est quoi, en 50-60, de comment était décidé, en fait, qui avait droit à une nécro ou pas. Il y a des pages vraiment savoureuses où le gars explique, enfin, ce journaliste qui était chargé de ça, comment il devait arbitrer, en fait. Donc, il y avait un mort et il devait décider si oui ou non le Times devait faire une nécro ou pas. Et il y a cette phrase, parce que Guettalis a cette façon aussi de clôturer ses chapitres, un peu comme un nouvelliste, hein, il a des chutes. Moi, je trouve toujours assez spirituel et souvent drôle. Et là, il raconte qu'en fait, et on revient sur le titre hein, de cet ouvrage qui est Bartleby, que Herman Melville, lui, n'a pas eu le droit à une nécro parce qu'il était un peu tombé dans l'oubli à ce moment-là. Et que c'est sa femme qui paye à la ligne pour faire un faire-part et qui essaye de dire que quand même, son mari, c'était quelqu'un et que c'est pas normal qu'il n'y ait pas de nécro dans le Times. Et donc là, on revient à son sujet qui est Bartleby, qui pour moi, d'ailleurs, n'est pas juste un titre. Je me suis demandé au début ce qu'il allait en faire. Il explique au début que c'est une de ses nouvelles préférées, mais je trouve que c'est beaucoup plus fort que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un livre qui est infusé par cette figure de Bartleby. C'est pas un prétexte, voilà. Je trouve que cette figure, elle est assez cohérente et elle éclaire, en fait, tout un parcours qui est le sien de façon à la fois littéraire et en même temps, c'est assez psychologique ce qu'il choisit. De choisir Bartleby comme fer de lance, c'est pas rien, parce que c'est quand même un personnage très ambigu, c'est pas un personnage très héroïque, hein, c'est même l'inverse. Donc j'étais étonnée et en même temps, je trouve ça très juste.
Thomas Stélandre.
Ouais, moi, ce que j'entends aussi dans ce titre, c'est effectivement Bartleby, donc en référence à cette nouvelle d'Herman Melville, mais c'est aussi le moi. Quand même, évidemment. Il parle des nécros et il renvoie quand même à un temps où les nécros n'étaient pas signés. Ça, c'est assez passionnant.
Ah oui.
Et en fait, c'est comment d'un coup, on starifie, on s'intéresse aux journalistes, on les starifie un petit peu et en racontant leur histoire. Et donc, du coup, comment je deviens moi aussi un journaliste dont la parole, la plume, la forme personnelle prend de la valeur. Et donc, je trouve que dans ce Bartleby et moi de Guettalis, il y a quand même un tout petit côté un peu... one man show, micro en main, quoi. Le mec est très content de lui, souvent, en disant, mais regardez quand même, j'ai eu la bonne idée, je suis allé chercher la bonne personne, et je suis quand même pas là par hasard. Donc, c'est vraiment super, super à lire. Il faut quand même avoir cet aspect-là à l'esprit. Il parle beaucoup de lui. On fait le plein d'anecdotes, on fait le plein de chiffres, on fait le plein de personnages. Et moi, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que c'est vraiment un livre qu'on pourrait conseiller à toutes celles et ceux qui disent, oh là là, mais moi, je m'ennuie un peu en lisant, c'est un peu long, etc. C'est vraiment une lecture qui est extrêmement enlevé. Et ça, pour ça, c'est génial. C'est quelqu'un qui nous lâche pas, quoi. C'est des chapitres qui sont courts et pas une seconde. On a envie de lâcher le livre. On a envie de savoir, voilà, où est-ce qu'il va et toutes ces anecdotes comme ça. C'est super à lire, quoi.
Marie, serait bien un dernier mot.
Oui, il a une technique que je trouve très efficace justement pour garder notre attention, c'est que il part toujours du détail pour aller vers la grande histoire. On part vraiment de la petite pour aller vers la grande. Il y a, je vous en donne un exemple.
C'est une leçon de journalisme écrit.
Complètement, voilà. Franchement, ouais. Pour tous ceux qui s'intéressent au journalisme ou qui voudraient être journaliste, c'est le livre à lire, parce qu'on apprend plein de choses et surtout plein de techniques. Et celle-là, je la trouve très efficace. Par exemple, à un moment donné, il parle d'une nouvelle de Fitzgerald qui s'appelle Rêve d'hiver, nouvelle que j'avais jamais lue, qui apparemment prend le point de vue d'un caddie de golf, hein, où on met les clubs de golf et les balles. Et en fait, cette nouvelle raconte que ce caddie de golf réfléchit à sa condition, quoi. Bon, voilà. Et en fait, il pitche cette nouvelle de façon assez drôle en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il finit comme ça, l'air de rien, le chapitre et le paragraphe en disant, eh ben justement, c'est à partir de cette nouvelle que Fitzgerald va écrire Gatsby le Magnifique, donc sa grande œuvre. Et en fait, je trouve que c'est vraiment le miroir de tout ce livre, c'est-à-dire qu'il prend un espèce de micro-détail qui pourrait paraître complètement trivial, anodin, léger, et il le déplie pour en fait nous donner un paysage d'ensemble. Je trouve ça très fort.
Bartleby et moi de Guettalis, traduit de l'anglais par Michel Cordillo, c'est aux éditions du Sous-sol.
La première fois que je l'ai vue, c'était en photo dans le journal. Même assise sur ce qui ressemblait à une chape de ciment au milieu d'un jardin touffu, on remarquait qu'elle était grande. Les cheveux blonds en dessous des épaules encadraient un visage sophistiqué, le genre de beauté féline qui donne à certaines personnes l'apparence d'un objet délicat, un peu sauvage. Elle avait une frange insolente, comme celle qu'arboraient souvent les filles d'une autre époque. Ce substantif lui allait bien, fille. Elle faisait beaucoup plus jeune que l'âge déduisible de la lecture de l'article, 64. Elle portait un haut à manches longues, couleur bleue, un jean serré, des sandales à talons compensés et semelles en jute. Elle était mince, d'une volupté naturelle. Elle y affichait l'aisance de celle qui s'est maintes fois assise par terre sans perdre sa contenance. Elle regardait en l'air. La photo reflétait une atmosphère à la fois fertile et menaçante, baignée d'une lumière aquatique qui lui donnait la consistance d'un rêve. Elle a regretté de s'être fait photographier là, dans ce jardin par trop identifiable. L'un de ces types pouvait la localiser et lui faire une frayeur, lui faire passer un mauvais quart d'heure.
L'appel, histoire d'une femme argentine, et cette femme, c'est Silvia Labayrou. En 1976, elle est enlevée par la junte militaire au pouvoir en Argentine et elle est séquestrée, torturée, violée à l'ESMA, la sinistre école de mécanique de la marine, transformée en centre de détention en plein cœur de Buenos Aires. Contrairement à beaucoup de militants politiques à l'époque, elle s'en sort vivante 2 ans plus tard. De quoi entretenir les soupçons de ses anciens camarades qui pensent qu'elle a trahi. 50 ans plus tard, la journaliste Leila Guerriero parvient à se rapprocher de Silvia Labayrou et à faire le portrait d'une femme qui refuse de céder à quiconque. On commence avec un avis en quelques mots d'abord, Thomas Stellandre.
Oui, Leila Guerriero, c'est une autre référence de la non-fiction, pas américaine pour le coup, argentine. Donc déjà c'est déjà un point intéressant et elle est d'une autre génération puisqu'elle a 58 ans. On est dans une gamme de couleurs, je dirais beaucoup plus froide, hein, avec Leila Guerriero. Et d'ailleurs, je renvoie à ce titre peut-être à un ouvrage paru l'an dernier qui s'appelait Le fantôme de Truman Capote, où déjà, en fait, elle interrogeait l'écriture de son froid et puis le personnage de Truman Capote à travers tout un faisceau comme ça. Et ce qui est intéressant, donc, elle s'intéresse cette fois à une autre figure, donc Silvia Labayrou, séquestrée et torturée à 19 ans donc par la dictature argentine. Et indépendamment de, disons, la valeur documentaire du livre, ce qui est vraiment passionnant, c'est la manière dont elle tisse vraiment comme une araignée, en fait, sa toile pour saisir son sujet et la manière dont elle avance comme ça, petit pas par petit pas, par ressassement, par nuance, pour livrer un portrait, kaléidoscopique, cubiste, en fait, de cette personne. C'est un grand livre.
Marie Sorbier.
Alors moi, j'ai trouvé ce livre passionnant sur le fond. Je me suis aperçue en lisant que je connaissais très peu, en fait, cette période. En tout cas, pas dans ces détails-là. Et en effet, elle rentre dans les détails. C'est un livre qui est très documenté. J'ai quelques petites réserves sur la forme. J'ai eu l'impression vraiment que la littérature passait après. Je pense que c'est tout à fait volontaire de sa part. Donc, je vais pas lui mettre à sa charge. Mais en tout cas, en tant que lectrice, j'ai été parfois, un peu mise à distance par une phrase qui peut être un peu lourde ou qui peut être un peu redondante. Par exemple, elle essaie des effets de forme. Il y a des paragraphes qui reviennent, par exemple. Il y a des leitmotivs comme ça qui peuvent fonctionner sur 2, 3, 4 fois. Et puis, en fait, je sais pas, la 10e fois où j'ai vu ce paragraphe, il y a quelque chose qui marchait pas. Comme il y a un problème d'équilibre, je trouve, dans la forme littéraire, alors que le portrait qu'elle dresse, notamment parce qu'il est nuancé et qu'il est complexe, est hyper intéressant.
Thomas Stellandre, on va rebondir tout de suite, si vous voulez bien, sur l'écriture, sur l'aspect littéraire de ce livre, de cette enquête.
Oui, moi je suis étonné par ce que dit Marie, parce que vraiment, moi je trouve qu'il y a de la littérature dans ce livre, y compris et surtout par le travail qu'elle fait autour des répétitions. Pour moi, c'est ce qui fait que c'est pas seulement un livre de journaliste, mais c'est un livre d'écrivaine. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on revient, c'est un livre qui interroge la trace, comment est-ce qu'on revient sur ses propres traces, comment est-ce qu'on interroge, comment est-ce qu'à chaque fois on se déplace un tout petit peu, comment est-ce qu'on répète jamais toujours la même chose. Et ça, c'est passionnant pour essayer de saisir et d'épuiser en fait un sujet. Là-dessus, moi, je trouve que sur la littérature, c'est vraiment un art. On disait, voilà, une leçon de journalisme. Là, c'est vraiment un art du portrait. Sigetalis est aussi un grand portraitiste. Mais il y a plein de petites choses qu'on a envie de noter sur comment est-ce qu'on peut essayer de résumer quelqu'un, de le mettre en une phrase ou deux. Et de rendre comme ça toute la complexité de quelqu'un. Par exemple, j'ai noté, page 110, en parlant donc de Silvia Labayrou, elle manipule les choses comme si elle avait peur de les casser, entre parenthèses, bien que ses mouvements soient le contraire de la maladresse. Voilà, on a comme ça plein de toutes petites choses, de tout petits regards, et on avance comme ça vers une certaine forme de vérité, mais qui n'est pas une vérité objective, qui est voilà l'espèce de grande complexité totale de d'une situation et de l'âme humaine. Et là-dessus, c'est assez vertigineux.
Marie Sorbier.
Oui, je pense d'ailleurs que son but n'est pas de dévoiler une vérité, et c'est pour ça que ce livre est réussi, c'est qu'elle la question de la vérité est vite occultée, enfin en tout cas mise de côté, dans le sens où en fait ce qui l'importe, c'est que nous lecteurs on soit à l'écoute. Moi, j'ai eu l'impression que c'est un livre qui demande beaucoup d'attention de la part du lecteur, parce que en effet, ce que disait Thomas, c'est qu'on avance un peu comme un escargot. Donc ça revient en cercle concentrique comme ça. Donc comme la carapace, je veux dire. Et donc en fait, tout revient toujours un peu aux mêmes histoires, c'est pas chronologique. Donc on attrape un bout et puis après on passe 20 ans après, puis on revient au bout d'avant. Et en plus, ces bouts-là, ils sont vus par plusieurs personnes. Alors, c'est ce qui fait tout l'intérêt du livre. C'est-à-dire qu'elle a son personnage principal, central, Sylvia Labeyrou, qui est donc cette survivante qui va lui raconter son histoire à travers des longues séances d'entretien. On sent le temps long, d'ailleurs, dans ce livre. Je trouve qu'il y a une matérialité du temps qui est intéressante. Et elle va confronter ce que dit Sylvia avec ses proches. Donc, il y a les amis, la famille, les enfants, des gens qu'elle voit plus, des gens qu'elle voit très souvent. Et donc, on a, par exemple, parfois 2, 3, 4 fois la même histoire racontée par des protagonistes différents. Donc, ce qui fait que ça avance quand même assez lentement, et un peu comme dans une conversation qu'on peut avoir entre amis ou chez un psychanalyste, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la psychanalyse, c'est-à-dire que par moments, il y a des fulgurances. C'est-à-dire que ça avance pas. On peut parler du temps qu'il fait, de la façon dont elle est habillée, de son chien, de son chat, il y a un rapport aux animaux dont elle est très proche, etc. Et puis d'un coup, au milieu d'une phrase, et ça, je trouve que l'autrice, pour le coup, le rend très bien, il y a une fulgurance. C'est-à-dire que quelque chose va lui rappeler une séance très particulière de torture, un sévice qu'elle a subi. Et ça, c'est assez beau parce qu'on a l'impression d'être dans cette conversation. Pour le coup, là, on est au temps présent, au moment de la conversation. Et l'autrice manipule un peu la phrase dans le sens où on a parfois de la voix directe. On entend Sylvia Labeyrou parler. Parfois, elle reprend dans ses mots à elle, en forme indirecte, Sylvia Labeyrou a dit que. Et puis après, c'est « mais le père de Sylvia Labeyrou avait dit que ». Donc, il y a plusieurs registres de langue et plusieurs registres d'histoire, ce qui fait que ça dresse un portrait. En effet, vous parliez de Cubis, c'est très juste. Très complexe de cette femme.
Et moi, elle est complexe. C'est une femme qui n'a pas beaucoup raconté son histoire et qui se refuse à beaucoup de choses aussi.
Oui, et puis surtout, elle n'en fait pas qu'un portrait de détenue. Elle n'en fait pas qu'un portrait de femme qui a été torturée et violée. C'est une partie de son histoire, mais elle insiste par exemple beaucoup sur sa vie amoureuse, que je trouve très intéressant, parce que c'est vraiment autre chose, et en même temps, c'est pas autre chose, mais elle va dans tous les pans de sa vie, en fait. Et ça, je trouve ça assez juste, de pas réduire.
Thomas Télandre.
Ouais, pour bien qu'on se fasse un petit peu une idée de la manière dont ça se passait, elle est là, Guerriero, en fait, pendant plusieurs mois, se rendait donc chez Sylvia Labeyrou avec des croissants, et donc du coup, Sylvia Labeyrou lui proposait un café, Leila Guerriero disait non merci, et voilà, elle commençait, voilà, après elle parle un peu de la pluie et du beau temps, et puis après c'était des séances un petit peu plus longues qui sont donc retranscrites dans le livre. Quand Marie dit « on avance un peu comme un escargot », je ne sais pas si ça veut dire que le livre est trop lent. En tout cas, le livre est copieux. C'est vrai que c'est quand même un gros morceau. On a plus de 500 pages, donc c'est un livre dans lequel il faut quand même entrer. C'est, je trouve, très, très immersif, en fait, chez Guétalis. Encore une fois, je ne sais pas si la comparaison est pertinente, mais en tout cas, chez Guétalis, on est vraiment dans quelque chose de sautillant, des chapitres courts, voilà. Là, on est dans quelque chose où, voilà, on s'installe pour très longtemps. Aussi, voilà, ce... Marie parlait des vêtements, et avec ce même souci du détail. C'est-à-dire que moi, il y a un truc qui me frappe, et c'est par exemple le cas aussi chez, pour parler d'une autre référence de la non-fiction, du nouveau journalisme, Janet Malcolm, cette attention portée aux vêtements, moi je trouve ça génial, où elle nous raconte, par exemple, à chaque fois qu'elle retrouve Sylvia Labeyrou, la nuance, de quelle nuance de bleu est son pull, comment est-ce qu'elle est habillée, et qu'est-ce que ça raconte finalement, comment toujours on arrive à saisir, on arrive à peindre quelqu'un, parfois à travers ces micro-détails, la couleur d'un vêtement, la manière de se tenir, une expression, une manière voilà, d'infléchir la voix, tout est bon à prendre, et elle use comme ça de tous les... De tout ce qu'elle peut pour réussir à sortir ce portrait, ouais, qui est vraiment saisissant.
Marie Sorbier.
Il y a des questions vertigineuses surtout qui sont lancées, enfin qui sont ouvertes, j'allais dire, lancées n'est pas le bon terme, qui sont ouvertes, qui sont pas traitées en tant que telles, et c'est bien parce qu'elle les pose comme étant la sensation de cette rescapée, notamment sur deux sujets, le sujet des viols et le sujet de l'après. C'est-à-dire que les viols, elle va raconter que elle parle de consentement, parce qu'en fait ils sont en train d'écrire la mémoire de ces années-là, donc en fait on l'interroge beaucoup en disant bon, c'était quoi, et en fait elle explique mais quand on est dans un camp pendant, je crois qu'elle est restée un an et demi ou quelque chose comme ça, le consentement ça n'existe pas, c'est-à-dire tout ce qu'on te demande de faire tu le fais, et donc elle a eu en effet des relations sexuelles, des viols avec plusieurs des militaires présents, et ça lui a été beaucoup reproché en sortant, parce que la grande question, et c'est moi ce qui m'a vraiment un peu terrifiée dans ce livre-là, c'est que finalement presque le plus dur c'est pas tellement quand elle est dans le camp, c'est quand elle sort, parce qu'elle se retrouve libre, et là, personne ne la croit, dans son camp, elle, enfin, je veux dire, ses amis.
C'est parce que personne ne sortait vivant, ou presque.
Exactement. Et donc, pourquoi elle est sortie vivante? Et
oui. Ça... Elle est perçue comme une traîtresse.
Ça, je trouve ça terrible, parce que ça dure des décennies. Enfin, quand elle le raconte, là, au présent du livre, elle doit avoir 65 ans, je crois, hein, Sylvia Lebérou, et donc, quand elle a été enfermée, elle avait 20 ans, donc le temps a passé, et j'ai l'impression que cette... étiquette de traîtresse lui est restée pendant des années, mais même de la part d'amis proches, même de la part de famille, où ils se disaient bon, bah, elle s'est débrouillée comme elle a pu, mais elle a dû donner certains des nôtres, elle a dû être la maîtresse de tel militaire, parce que finalement ça l'arrangeait bien, elle a pu survivre. Et ça, le temps qu'elle a mis à détricoter tout ce truc-là, elle, dans sa vie, et c'est passé par un geste très fort et très symbolique, c'est que c'est la première femme à avoir porté plainte pour viol, alors même que ses bourreaux étaient déjà en prison à perpétuité pour crime contre l'humanité.
Et on a séparé, on en a fait un véritable crime en soi,
oui.
le viol.
Mais plein de femmes qui étaient incarcérées avec elle à la même époque l'ont pas fait. Donc elle y va, et en fait c'est un peu par ce geste, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai lu, qu'elle se libère en disant que non, en fait, elle a été violée, et que c'est un geste très fort, et qu'il faut qu'elle raconte ce qui s'est passé, mais qu'on le raconte vraiment avec les vrais mots, et pas sous couvert d'autre chose.
Thomas, un dernier mot.
Je pensais effectivement à ce que dit Marie, c'est comment parfois Leila Guerriero reste effectivement, alors peut-être par élégance, par pudeur, un petit peu en retrait. Donc je veux dire, quand on creuse comme ça pendant des mois, des années, un sujet, ça n'empêche pas pour autant de faire état, voilà, des creux, des gouffres. Et justement, c'est aussi le livre en train de s'écrire, c'est-à-dire qu'elle dit à ce moment-là qu'elle préfère ne pas y aller et qu'il n'y a rien à ajouter. Un dernier mot, peut-être, sur la manière dont elle emploie la forme personnelle, puisque le nouveau journalisme, c'est le jeu, cette forme personnelle-là. Bah, contrairement à Guetalis, où on est quand même dans une sorte de one-man show, Leila Guerriero, j'ai l'impression que c'est plutôt une manière d'impliquer son lecteur, sa lectrice.
Merci beaucoup. C'était donc l'appel Histoire d'une femme argentine de Leila Guerriero, traduit de l'espagnol par Mayra Mouchnik, Thomas Célandre, Marie Sorbier, merci beaucoup.
Merci
beaucoup
d'être venu dans les midis. Et Thomas, bonne fête si on ne se revoit pas d'ici là.
Merci Marie.
De rien. Et Marie, on se retrouve tout à l'heure pour le Point Culture. Et vous aussi, vous restez avec nous évidemment.